l'industrie.
Bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Bonsoir à tous dans le chat. Il y a déjà quelques personnes qui sont là. Et je vois qu'il y a même un revendeur de l'opercule. Donc, Cédric5488CL, bienvenue à toi. En plus, il soutient la chaîne en finançant, en me payant une bière. Ça fait plaisir. Merci. Merci à tous de venir. Du coup, ouais, il y a des nouveaux dans le chat, donc c'est cool. On va découvrir ensemble du coup la brasserie L'Opercule. Moi, la brasserie L'Opercule, du coup, je la connaissais via le podcast du Podcapsuleur qui a fait un épisode sur vous il y a un petit moment déjà, il me semble. Ensuite, je savais que vous étiez mes voisins proches de là où je travaillais avant en Alsace. Et puis on s'est rencontrés une fois pour de vrai lors d'un petit séjour dans les Vosges grâce à Je vois la vie en Vosges terroir. Du coup, encore merci à eux. On est là ce soir ensemble. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les trois qui vous êtes et puis ce que vous faites à la brasserie ?
Alors, moi, je suis Damien, cofondateur du coup de la brasserie L'Opercule.
Ok. Vas-y.
Ah ben, c'est Maxime, donc associé de Damien. Moi, je suis plutôt sur la partie brasserie.
Et moi, c'est Luc, je suis en formation en ce moment pour un futur poste avec L'Opercule.
Cool. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Arthur, Crazy Panda Brew. Du coup, je fais des lives sur Twitch. Je suis aussi brasseur à côté. Enfin, c'est mon vrai métier, du coup. Mais là, on profite ensemble de ce moment. Dans le logo L'Opercule, du coup, il y a une abeille et il y a surtout écrit apiculteur brasseur. Ça vient d'où et puisque là, vous êtes dans une brasserie, on n'est pas dehors dans un rucher. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un veut nous expliquer un peu d'où ça vient et ce que c'est.
Je vais m'y coller. La brasserie, elle s'est montée sur une base d'apiculture, tout simplement. C'est que Maxime et moi, au bout d'un moment, on travaillait en bureau d'études et on en avait un petit peu marre. On a switché sur quelque chose de plus manuel. Maxime avait une envie de travailler dans l'agriculture. Mais comme je dis souvent, c'est que nos parents sont des fonctionnaires et du coup, l'accès à la terre, c'est un peu plus compliqué. Et moi, à l'époque, j'étais apiculteur amateur. Et okay. Du coup, je me suis dit, il y a peut-être un truc à jouer au lieu de faire de l'agriculture pure, on peut faire... d'apiculture parce que c'est plus facile de poser des ruches quelque part. Et puis, par contre, moi, ce que je voulais pas, c'était de faire des pots de miel parce que des années où il n'y a pas de miel comme cette année, c'est une année catastrophique.
Ouais.
On n'a pas de revenus, donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. Et c'était à l'époque aussi, on est des amateurs de bière, mais c'est à l'époque où j'avais des amis qui m'offraient des kits à bière. Alors, le kit à bière basique avec la grosse... La grosse boîte en fer, juste à verser, rajouter du sucre.
Ah ouais, la bière en conserve.
Et petit à petit, on a tous commencé par ça. Et petit à petit, en fait, au lieu de mettre du sucre, moi, j'ai commencé à mettre mon miel. Et voilà, et ça a paru comme ça. Il y a eu l'émergence de plus en plus des microbrasseries. Et puis, quand on a monté le projet avec Maxime, donc on ne voulait pas faire que de la bière. On a aussi un projet de faire d'autres produits issus de l'apiculture. Mais dans ce qu'on avait noté, vraiment, ce qui portait financièrement les idées, c'était le côté brasserie. Et en France, on doit être les premiers à avoir fait des bières au miel. Enfin, on va dire, nous, on a vraiment une gamme de plus de 75% de bières au miel chez nous. Quoi.
Et en étant apiculteur, bon, alors, surtout au début, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de suivre. Parce que pour continuer dans la réflexion... de Damien, quand on est arrivé au moment où on a créé L'Opercule, on s'est quand même rendu compte que la bière avait le vent en poupe et que c'était une base solide pour une entreprise que d'avoir une production de bière conséquente. Et le truc, c'est que donc, nous, on a commencé, on n'était que deux. Donc, quand la brasserie est montée en puissance, que nos volumes ont augmenté, donc on avait toujours des ruches à côté, etc. On en a toujours aujourd'hui. Et donc au début, on avait une petite production, ça couvrait notre petite 100 litres, ça allait bien. Mais alors là, aujourd'hui, ça a tellement augmenté rapidement qu'il va falloir qu'on ajoute d'autres personnes pour pouvoir vraiment réussir en plus à maintenir l'apiculture.
Ouais, ok. Mais du coup, c'est quand même une volonté de continuer à avoir des ruches et que ce soit ce miel qui approvisionne du coup les bières refermentées au miel. Ouais.
On cherche actuellement une personne pour porter ce projet-là avec nous, quoi.
Oui, c'est vrai. J'ai vu du coup, il y a un article sur Facebook où vous avez fait carrément un appel à projet, en fait.
C'est, oui, c'est ça.
C'est pas juste un salarié, c'est quelqu'un qui va prendre tout le projet en main et puis continuer.
Oui, on veut vraiment que ça soit une personne qui crée sa structure avec nous. Nous on peut faire partie de cette aventure, c'est pas un souci, mais on va pas pouvoir être les forces vives de ça, parce que nous la brasserie nous prend déjà toute notre énergie. Donc il faut absolument quelqu'un qui soit capable de porter le projet, mais aussi d'être dynamique, d'apporter des idées. Enfin, nous, on est ouvert à tout. On veut vraiment que ça soit foisonnant, quoi.
Ok. Du coup, quand vous faisiez vos premiers tests, justement, avec l'équité à bière, tu dis que tu remplaçais le sucre par du miel. C'était uniquement pour la refermentation à cette époque-là, ou c'était tout le sucre qui était rajouté? Parce que je sais que dans ces kits-là, souvent, on balance masse de sucre.
Non, c'était que pour la refermentation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que le miel qu'on utilise, c'est que pour de la refermentation en bouteille. Donc, on a gardé cette idée-là. Peut-être qu'un jour, on essaiera de mettre en ébullition, voire même carrément dans le fermenteur. Voilà. Mais pour l'instant, non, c'est que en refermentation.
Oui, pour le moment, c'est pas une bière au miel, en fait. C'est vraiment de la refermentation.
C'est ça, c'est pas aromatisé au miel. Alors, on s'attendait pas du tout à ça, mais au tout début, on s'est un peu heurté à quelque chose comme ça. Donc, on présentait nos bières, et puis les gens regardaient et disaient « Ah ben non, ça va être sucré j'aime pas les bières aromatisées. » Alors, nous, on est arrivé, on s'est dit mais non, c'est pas du tout le but, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est que… ça remplace juste un sucre raffiné de betterave, ben nous, en fait, on fournit juste le sucre de nos ruches, tout simplement, quoi. Donc, ça nous paraissait même plus naturel, etc. Et donc, effectivement, la volonté, c'est pas du tout de faire des bières aromatisées au miel, c'est juste la refermentation. On utilise ces sucres-là pour gazéifier les bouteilles, quoi.
Ok. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce préjugé avec l'hydromel, par exemple, où... les gens vont s'attendre tout de suite à un truc ultra sucré, alors que l'hydromel, ça peut être très très sec. Et donc c'est pareil, en fait. Même si c'est refermenté au miel, du coup, c'est comme le sucre. En soi, il n'y a plus de sucrosité. La sucrosité du miel, elle disparaît finalement.
Oui, c'est ça. Et puis Damien, il fait des hydromels. On peut faire des hydromels très secs. Hein. Je pense que c'est vraiment une déformation de la grande distribution où on a du sucre un peu partout dans tout. Mais un hydromel, ça peut être super sec, ça peut ressembler à un vin blanc.
Oui, très floral. Écoutez, moi je vais du coup ouvrir une première. La blonde, du coup, refermentée au miel.
Allez.
Voilà. Ah oui, d'ailleurs, il y a écrit 1% de miel. C'est vrai que...
Ouais, ça, c'est la partie réglementaire. Dès qu'on affiche refermentée au miel, on doit marquer derrière le pourcentage.
Bah ouais. Allez, regarde, ça gâche pas, hein, pas de problème. J'ai pris mon plus beau verre de la région. Hop.
Et nous, on a pris nos plus beaux verres.
Le chat vient récupérer sa capsule comme d'hab.
Ouais, on est mercredi soir.
Ouais, ça arrive tous les autres jours de la semaine, ça aussi.
Non, bah là, si tu veux qu'on te la décrive, on a une bière assez simple. On voulait une bière buvable, parce que c'est notre première bière. Elle devait aller dans les restaurants, donc il fallait que ça reste pas fort au niveau du miel. Tu as des touches de miel au nez, en bouche, mais assez légères. et il faut que ça soit plutôt agréable. Quoi.
Ouais, j'ai presque... Ça sent... Enfin, alors, je sais pas si c'est moi, mais ça sent presque la pomme. C'est rigolo.
Alors, ce qui est marrant, c'est que quand tu changes de miel, ouais. Ça peut changer un petit peu le goût, notamment dans la blonde aussi. Les saveurs peuvent évoluer. Là, on a acheté, bah, du coup, là, comme c'est une année catastrophique, on a dû aller voir des copains au Col du Bonhomme. Ouais. Et ils ont un miel bah, différent, avec d'autres, un côté floral peut-être un peu plus puissant. Et dans la bière, bah, nous, bon, on la connaît, on la retrouve, on retrouve cette différence. Quoi.
Ok. Ouais, c'est ce qui fait la typicité des, déjà des brasseries artisanales où on n'est pas forcément capable de reproduire à 100% tout le temps la même bière. Mais si en plus, en effet, l'origine de l'ingrédient diffère, ou même d'une année à l'autre, je suppose que les mêmes abeilles, elles peuvent quand même faire un miel légèrement différent. Même si elles vont butiner sensiblement les mêmes types de fleurs, on sait très bien que d'une année à l'autre, l'ensoleillement et les précipitations vont faire que... Enfin, tu vas pas avoir voilà, le même goût au final.
Bouche, on se sent bien sur le fond des papilles. Là. Plus que le miel d'amande, je trouve.
Ouais, c'est sûr qu'elle est différente depuis le changement. Là, il y a une petite différence. Elle est plus mielée, en fait.
Mmh. Ah ben moi, je trouve que de toute façon, c'est la bière où on sent le plus, le miel, c'est celle-là. Et je retrouve exactement le goût ou l'odeur qu'on a quand on pasteurise de miel.
Ouais.
C'est vraiment quand on a la tête au-dessus du bureau de pasteurisation, on a cette odeur-là. Qui...
Ouais, c'est vrai qu'au nez, c'est très floral, limite épicé, et en bouche, un peu moins, et c'est beaucoup plus doux. Je trouve que c'est... Enfin, j'ai pas ce côté épicé que j'ai au nez, tu vois, par exemple.
Le côté épicé, c'est sûrement les houblons, parce ouais. que du coup, il faut dire une chose aussi, quand on a commencé, donc quand on a créé la blonde, qui était donc la première bière que nous, on voulait commercialiser, on a aussi fait attention que dans celle-ci, on ait des houblons qui sont locaux, donc pour nous, c'est les houblons alsaciens. On a essayé d'aller piocher plutôt dans le... entre guillemets traditionnel. Alors on n'a pas choisi le Strisselspalt qui est vraiment le traditionnel, mais on a choisi le Triskel qui est entre guillemets une évolution du Strisselspalt en un peu plus aromatique. Ouais. Et donc dans cette bière là, le houblon aromatique principal, c'est le Strisselspalt.
Ok.
Donc nous, à notre hauteur, dans une cuve de 1000 litres, là à l'ébullition, on balance 1,4 kg de Strisselspalt.
Ok.
Donc ça, c'est ce côté épicé, mais il a aussi un côté floral qu'on va retrouver, je pense aussi en grande partie au nez.
Oui, ouais, clairement. Mais en effet, quand on la goûte, c'est très buvable, il n'y a aucun problème. Quoi. L'amertume, elle est douce, c'est...
Mais tu n'as pas ce côté sucré, en fait. Hein,
Ouais, non, non. On sait qu'il y a du miel, du coup on essaye de chercher, tu vois, un peu le miel, mais à l'aveugle tu dis pas que c'est au miel, enfin qu'il y a du miel dedans pour la refermentation. Mmh. Je suis pas sûr qu'on le trouve. Peut-être du coup on peut se demander d'où viennent ces arômes, mais en tout cas c'est pas, en effet tu plonges pas la cuillère dans le pot de miel, quoi.
Alors nous, on a soutenu justement les arômes là avec les maltes aussi. Donc on est quand même sur une blonde où on a un pourcentage de maltes un peu torréfiées relativement important. Okay. Et on a fait en sorte que ce malt soit un malt qui sente un peu aussi le caramel, des notes comme ça, qui viennent, on va dire, soutenir cette idée de miel, quoi. Mais de manière très légère. Hein, c'est,
ouais.
On reste super clair, quoi. Hein, c'est...
Non, non, c'est. Elle est presque transparente. Ouais, pour moi, elle est transparente. Elle est plutôt. Ouais. Mais d'ailleurs, ouais, en fait, toutes les bouteilles, elles ont. C'est... On voit que ça sédimente bien à la refermentation bouteille. Elles sont nickel.
Mmh. Ouais, ben, nous, on a deux choses qui font que depuis le début, on n'est pas trop embêté avec ça. Donc, depuis qu'on s'est installé ici, donc qu'on s'est considéré professionnel, on a des tanks qui sont refroidis au glycol. Ouais. Donc, on est capable de descendre bas pour la garde. Donc, ça fait que depuis le début, on a toujours eu des bières plutôt transparentes. Et depuis maintenant un an, je crois, ou peut-être un peu plus, on fait toutes nos refermentations en bouteille avec une levure de refermentation. Et ça nous a fait gagner deux choses. La première, c'est la vitesse à laquelle on arrive à refermenter en bouteille.
Ouais.
Et la deuxième, c'est, je pense, que la sédimentation, elle est vraiment…
Elle est meilleure.
Meilleure, ouais. Peut-être même plus rapide. Bon, ça, j'ai encore du mal à évaluer, mais…
Non, mais très bien. Ouais. Et du coup, je ne sais pas si dans le chat, il y en a qui connaissaient vos bières. Faut manifestez-vous. Je pense que oui, parce qu'il y en a qui doivent venir de votre page Facebook, comme vous avez relayé le live. Mais comme on a des... Je sais qu'on a des Alsaciens, et puis on a d'autres gens qui viennent un peu plus loin.
Ouais, pour l'instant, on vend que principalement sur les Vosges et Nancy. Bon, après, on a deux distributeurs qui vont un petit peu sur l'Alsace, Moselle et Meuse, mais c'est vrai que c'est pas forcément notre zone de chalandise première, quoi.
Ouais, ouais, non, mais nous, on est contents de faire découvrir des brasseries, justement, parce que les gens, quand ils vont pouvoir, enfin, quand ils vont se déplacer en vacances ou autre, ils savent quoi trouver, quoi chercher, surtout.
Ouais, carrément, ça arrive souvent que les gens viennent en vacances et veulent découvrir les produits du coin et passent par chez nous. Ça fait grand plaisir de leur faire découvrir ce truc.
Moi, tu sais, mon guide touristique, c'est ça.
Il y a du boulot, là.
Au moins, il y a tout là-dedans. Tu sais pas si les bières sont bonnes, mais il y a tout.
Ouais, mais d'année en année, il grossit, alors...
Ah, il est de plus en plus lourd. Il y en a qui veulent un distributeur sur Toulouse. Bah, faut appeler le caviste et puis faut lui dire, on veut des bières de l'Opercule et puis il se débrouille après.
Sinon, je ferai des petits envois à Ragnar. Je crois que je sais qui c'est.
Du coup, au début, vous avez commencé sur 100 litres. Tout à l'heure, en off, vous me disiez que vous allez augmenter la production sensiblement. Vous êtes sur quoi, sur 10 hectos en ce moment, ou c'est ce qui va arriver, parce que la cuve qui est derrière, elle a l'air relativement grosse.
Oui, c'est 10 hectos en ce moment. Il y a eu un intermédiaire à ça, c'est une 5 hectos.
Ok.
Donc on a commencé sur 100 litres, on savait que c'était absolument pas viable. C'était vraiment juste pour créer notre carnet client, on va dire, montrer ce qu'on savait faire et puis trouver des débouchés. Et puis une fois qu'on a eu fait ça, nous on pensait que c'était important pour avoir la confiance des banques, ouais. Ce qui nous a permis ensuite de s'installer ici sur une 5 hectos, et on avait une capacité de fermentation à l'époque de 3000 litres. Oui, c'est ça, on avait 6 fermenteurs de 500. Et puis assez rapidement, on a eu 2 fermenteurs 2000, les gros qui sont derrière nous, là, qui sont arrivés. Mais on brassait toujours un 500, on empilait les brassins. Et puis ensuite est arrivée la salle de brassage, là, voilà. Et qui est en 10 hectos, effectivement. Et donc la prochaine étape dont on parlait, c'est toujours 10 hectos en brassage. Par contre, c'est 20 hectos en fermentation.
Ok. Oui, c'est... Et du coup, en combien d'années tout ça? Parce que ça a été créé.
Alors, mars 2017.
En 2017, oui.
Ouais, après, on s'est installé dans ce bâtiment-là avec le matériel professionnel, c'était octobre 2018.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc là, au 1er mars, ça fera 5 ans qu'on existe. Et puis pour là, cet été, on déménage dans un autre bâtiment, enfin à 50 mètres, hein, c'est pas très loin. Et là, ça sera encore une autre étape parce que c'est sur du 20 hectos, quelque chose de plus chiadé qu'on a maintenant. Voilà, donc ça va être bien, ça va être bien.
Okay. Ouais, parce qu'on change les tanks, mais en fait, on change toutes les pompes, toutes les tailles de tuyaux, on passe uniquement sur la taille au-dessus. Donc aujourd'hui, on avait encore des pompes à hélice à l'intérieur, à rotor. Maintenant, ouais. On n'aura plus que des pompes centrifuges. Donc en gros, pour résumer, c'est la qualité augmente puisque on va moins oxyder notre bière quand on va faire des transferts. Enfin, on va avoir un matériel plus adapté. On aura aussi pour toute la partie refroidissement. Donc une fois qu'on a fini de faire bouillir la bière, quand on veut l'envoyer dans les tanks de fermentation, là, on sera moitié eau, moitié glycol, ce qui nous permettra de mieux gérer la température à laquelle notre bière arrive dans les tanks.
Ouais.
Et puis, on aura aussi…
Une nouvelle embouteilleuse. Bah oui.
On a aussi une nouvelle embouteilleuse.
Ça fait 2 ans qu'on l'a. 2 ans par
installé. Donc, aujourd'hui, on est à quoi, Damien? 800 000 maximum.
800 000 bouteilleurs.
Ouais, c'est ça.
De 800 à 1000, tout dépend si on fait de la 33 à la 75, et on va passer à 3000 max la capacité de la nouvelle.
Ah oui, ça va envoyer.
Ah, c'est le bonhomme qui va plus suivre, là, je crois.
Ouais. Ah, souvent, c'est ça. Hein.
On a fait un choix aussi, on n'est pas passé sous pression, puisqu'il y a deux façons d'embouteiller. On peut embouteiller gravitairement, donc avec une bière qui n'a pas de bulle. On refermente, enfin on met du sucre, elle refermente en bouteille, ou on peut embouteiller directement sur pression. Et une fois que la canette sort de la ligne, on l'ouvre et on peut la boire tout de suite. Il y a déjà des bulles. Et donc nous, on a fait le choix de rester comme aujourd'hui en refermentation au miel et donc d'embouteiller en gravitaire. Donc on n'est pas passé sous pression.
Ouais, bah du coup sous pression, vous aurez perdu du coup l'âme même de la brasserie, quoi.
C'est ça. Et puis, il n'y a pas que le miel, hein, y a aussi le style que nous, on a depuis le début. Il est plutôt traditionnel belge, ouais. Plus que dry hopping très, 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 très fort, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas et on adore en faire, mais notre style, il est plutôt traditionnel belge que dry hopping. Donc, ça se comprend aussi sur cet aspect-là, quoi.
Oui, du coup, la refermentation, c'est un peu un passage obligé, presque.
Ouais, c'est ça.
Ok. Vous faites. J'ai entendu tout à l'heure, on a parlé de très rapidement d'hydromel. Il n'y a pas d'hydromel de prévu alors que vous êtes apiculteur.
Si, dans ma tête, la difficulté, en fait, c'est d'avoir du miel.
Puis bon, en quantité, dire,
ouais. En quantité. Et surtout que si on en fait 500 litres, par exemple, il ne faudrait pas se couper, quoi. Voilà, donc on fait plutôt des tests pour nous perso, et puis on voit comment ça marche. Mais non, je pense que la principale difficulté, c'est d'acheter du miel en conséquence et de ne pas se couper aussi derrière. Voilà, on ne peut pas faire tout. Il y a plein de trucs qu'on aimerait faire. On s'attelle un petit peu à la distillation, quelques bières en barrique, voilà, pour se tester, des choses comme ça. Sur la distillation, on a bien progressé là sur les dernières années, donc on est plutôt content. Mais voilà, donc nous on aime bien faire les choses à fond. Donc il faut que le produit soit bien quand il sort. On n'aime pas faire des trucs à demi, quoi. Parce que même nous, on ne saurait pas bien les vendre. Du coup, on n'est pas satisfait de la qualité. Alors, on n'aime pas mentir. C'est pas notre truc. Donc, on préfère sortir un truc qui soit bien. Et puis, comme ça, tout le monde est content.
Ok. Ouais, bah, tu parlais de distillation. C'est vrai que vous avez aussi fait distiller un peu de bière, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, on distille un petit peu de bière qui nous reste parfois. Et bah là, les premières années, c'est marrant parce qu'on a goûté nos premières eaux de vie et nos dernières. Et voilà, ça n'a rien à voir. Les premières eaux de vie, en fait, elles sont fades, on trouve. Et les dernières, elles sont vraiment explosives au niveau du houblon, du malt. Il y a vraiment des choses intéressantes. On en a mis quelques-unes dans des barriques. Voilà, pour tester. Et c'est marrant parce que on a mis dans deux barriques différentes. Ça a sorti des produits complètement différents aussi. Et super bon. Dont une, c'est assez exceptionnel. On a des notes de fruits rouges dans une base d'eau de vie vieillie. C'est quand même surprenant. et ça se boit comme du petit lait, quoi, comme on dit chez nous.
C'est vrai, je confirme.
Parce que quand on a commencé, on mettait un peu tout au tonneau. On avait un tonneau, comme ça, quand tu allais sur la 100 litres, on avait un tonneau là où on brassait. Et dès qu'on avait une fin d'eau sucrée, bam, on mettait dedans. Enfin bon, il fallait que ça soit un peu concentré. On ne mettait pas des jus de fin de filtration, des trucs comme ça. Mais tout ce qui était un peu concentré, les lits et tout, on mettait tout ça. Sauf qu'en en fait, on s'est aperçu que l'eau de vie, si on veut que ça soit fin, en fait, la fermentation et sa température est vachement importante aussi. Ouais. Comme dans la bière, ça ne nous viendrait pas à l'idée d'aller faire fermenter avec une levure lambda à 30 degrés. On sait qu'on va avoir des goûts bizarres. Et en fait, l'eau de vie, on s'est aperçu que c'était la même chose. Donc, petit à petit, on a réduit ce qu'on mettait au tonneau pour essayer de vraiment maîtriser nos températures de fermentation. Et du coup, maintenant, en fait, on fait plus ça parce qu'on n'a pas les outils pour le faire. Donc, on met que des bières qui sont finies à distiller. Donc, soit c'est des fins de l'eau, des trucs, bières d'hiver en plein mois d'août. Et puis, comme nous, ouais, on sait que derrière, ça va donner quelque chose de bon, bon bah, ça part au tonneau. Des choses comme ça, quoi. Ou alors, à chaque fois qu'on embouteille, nous, on a un carton qu'on ne vend pas. C'est le premier qui passe dans les becs, on ne le vend pas. Donc, ça nous fait à chaque fois 12 bouteilles qui se stockent. Puis à la fin de l'année, bah, tout ça, on distille, quoi.
OK.
Et même avec le distillateur, on a progressé sur la manière de fonctionner. Maintenant, c'est carrément débouchonné devant l'alambic et c'est plongé directement l'alambic pour pas que ça soit oxydé. On voit que l'oxydation, même pour de la distillation, en fait, tu perds des arômes. Et voilà, donc ça sort, hop, c'est tout de suite distillé.
Ah bah, faut pas croire, hein, distillé n'a jamais rendu un produit mauvais meilleur. Hein. Donc, il faut absolument qu'il soit bien fait et amené à l'alambic dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de secret.
Et puis, donc, on avait fait pendant le confinement, donc en mars, il y a 2 ans. En mars, il y a 2 ans, pendant le premier confinement, on savait pas trop comment ça allait se passer. C'était tout neuf, tout ça. Donc, pendant un mois, on a arrêté de brasser de la bière et on a rempli 4 fermenteurs de 500 litres de moût de whisky.
Ouais, bah oui.
Donc, c'était notre première. On a fait tous nos petits calculs. On avait une levure spécifique. Bref, on a fait vraiment exprès pour du whisky, sans houblon cette fois-ci, donc avec une toute petite ébullition de 10 minutes. Et on a sorti un tonneau de 188 litres, je crois, un truc comme ça.
Donc, résultat dans un an.
Ouais, il faut qu'on fasse le finish. Il faut
qu'on fasse un finish.
Il faut qu'on choisisse la barrique. Voilà, mais ouais, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on apprend aussi sur d'autres domaines et on fait des rencontres avec des gens. Et c'est ça qui est passionnant. On a envie de réitérer derrière pour encore s'améliorer.
Bah oui, bah c'est l'avantage de ce genre de métier. Hein. C'est le métier d'artisan. On rencontre du monde, on apprend toujours des autres et puis des expériences. Et puis on fait évoluer les produits, les recettes. Et justement, là, les brasseurs, on est nombreux à avoir essayé de faire de la distillation pendant le premier confinement parce que bah, du coup, il fallait faire quelque chose de ce qui restait sur les bras. Ou il fallait surtout s'occuper d'ailleurs. S'occuper puis créer de la valeur alors qu'on pouvait pas la vendre et c'est vrai que bah, faire du whisky c'est un investissement parce que bah, faut le faire tu pourras pas le vendre avant 3 ans de toute façon mais au moins tu t'occupes, t'apprends, tu rencontres encore des gens et puis tu progresses quoi, c'est cool. Ouais.
Le problème du whisky c'est qu'il faut attendre 3 ans, c'est ça malheureusement. Oui.
C'est ça.
Bah, nous, on a de la chance, on a le tonneau à portée de main, donc on peut tous les jours, si on veut. Et il va pas rester grand-chose à la fin, quoi.
C'est les deux qui vont pas comprendre.
À la part des gens, je suis désolé, c'est 100 litres. Alors voilà.
Alors, je suis en train de regarder les degrés parce que... Ouais, je vais peut-être parce que on a une de vos bières du coup à la Gvec, voilà, que je vais ouvrir avant la triple. Je pense que c'est mieux.
Oh oui, je pense aussi. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, non, c'est n'importe quoi.
Ouais.
Et du coup, c'est écrit en c'est quelle langue ce qui est écrit autour? Ça veut dire quelque chose ou c'est
Ouais, ça veut dire quelque chose.
Ouais. Ah, merde. C'est des runes.
Tu t'amuseras.
C'est le graphiste, hein, nous on ne savait pas. Hein. C'est vraiment le graphiste qui s'est amusé. Nous on l'avait dit, bah, vas-y, tu mettras des espèces de runes là autour, ça fera beau. Et au final, il a vraiment écrit quelque chose. Alors, il y a quelqu'un qui avait déchiffré, je crois. Mais Marc, il avait déchiffré. Donc, meilleure bière du monde, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, il a écrit.
Évidemment. Le graphiste, c'est le plus beau. C'est ça.
Et il aurait pu, hein, ça, oui, ça aurait été pas mal. Ça.
Du coup, celle-ci, il n'y a pas de miel. Ça fait partie des bières où il n'y a pas de miel, c'est ça?
Ouais, sur les éphémères, il y a toujours des tests sucre et un test miel pour voir un peu la différence. Il y a même des. Enfin, là, y a, par exemple, notre IPA, on va la modifier, on va la passer au sucre. Parce qu'on se rend compte que le miel, c'est bien, mais bon, c'est des fois, ça ne peut. Ça peut... Enfin, dans le style de bière qu'on veut réaliser, ça ne s'associe peut-être pas très bien au final. Quoi.
Ou ça apporte rien du
voilà,
tout.
Voilà, ça n'a pas de valeur. Et du coup, là, bah là, ça s'est fait parce qu'on avait un manque de miel.
Oui, bah ça, il faut l'avouer, c'est clair que…
Et du coup, là, on a dit, on pourra pas la, on peut pas la faire au miel, il faut qu'on la passe au sucre. Parce qu'on a une gamme fixe et une gamme éphémère. Donc, la gamme fixe, tout est au miel. Et là, c'était un peu critique au niveau des stocks. Et on s'était dit, bon, bah, on va faire au sucre.
Donc, c'est les problèmes qu'on disait tout à l'heure, hein, d'années qui sont catastrophiques. Et du coup, on se retrouve avec des problèmes de miel, et ce qui fait qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut.
Oui. Après, c'est vrai que si vous avez votre propre rucher, il faut gérer justement le stock. Parce que le miel, ça se conserve un peu, mais c'est sûr que si tu utilises tout dès la récolte, c'est compliqué.
Ouais. Et du coup, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est justement l'appel à projet qui va nous permettre de pouvoir peut-être faire plus de choses au miel, parce que si on a un apiculteur qui s'installe et qui commence à avoir une grosse production, et ben là on sera beaucoup plus libre de nos mouvements et on pourra commencer à faire de l'hydromel ou des trucs comme ça.
Ouais. On a Benoît de Bière et Moustache du coup qui est dans le chat aussi, donc qui était avec moi dans les Vosges.
Salut Benoît. Donc, la levure quake, on fait un petit descriptif.
Oui.
Allez, oui, parce que j'ai toujours pas tout compris. Je n'ai pas tout cherché encore, mais j'ai pas encore tout compris.
De levure norvégienne. Alors, si on veut raconter une histoire, parce que c'est toujours sympa, en gros, elle aurait été diffusée en Europe par les Vikings. Alors attention, j'ai bien dit « elle aurait été », c'est ce qui était marqué dans les différentes sources que j'ai pu lire. Hein, donc, voilà. Mais en gros, si on veut faire un résumé, c'est une levure rustique qui fermente à haute température. Alors, on peut la faire fermenter plus bas aussi, hein, elle accepte pas mal de choses, mais on peut aller jusqu'à… Donc nous, on fait fermenter à 39 degrés au lieu des 20-22 qu'on fait habituellement avec des levures plus classiques. Quoi. Et donc, en fait, cette levure, par le fait qu'elle fermente haut, dégage des arômes très puissants. Et ces arômes très puissants, bah, on a essayé de les mettre en valeur dans cette bière particulièrement.
Okay.
Donc, on a essayé de faire en sorte que la base maltée ne soit pas trop prenante, pour que on sente la levure. Et c'est pareil sur les houblons, on a fait en sorte de rehausser les arômes qui sont déjà dégagés par cette levure. Donc c'est écorce d'orange, agrumes, des choses comme ça. Et donc on a essayé juste de les contrebalancer, enfin de les compléter, on va dire, avec quelques houblons. Mais on a essayé de faire en sorte que ça soit vraiment la levure qui soit en premier plan.
Ok. Alors du coup, enfin, pour ceux qui n'ont jamais goûté, ça sent pas la levure comme on peut imaginer. Hein, ça sent pas la levure de boulanger ou la levure de bière. Hein, il y a quand même un goût très typique de la Gweck, je trouve. Mais d'ailleurs, on le sait pas forcément parce que c'est rarement écrit quand même le type de levure utilisé dans pas mal de bières. Mais il y a pas mal de NEPA pour ceux qui boivent de la craft qui sont fermentés avec ça en fait. Parce que justement, ça blinde d'arômes et certaines font rendre la bière un peu trouble. Ça sent presque les fruits confits, en fait, je trouve, cette levure.
Mmh. Ah, il y a un côté moelleux.
L'impression de mettre le nez au-dessus d'une brioche aux fruits, tu vois. Un truc.
En plus, on est venu compléter cet arôme-là avec, pour ceux qui connaissent, du First Gold, qui a un goût aussi un peu de confiture.
On dirait presque qu'elle est fumée, c'est fou. Il y a quoi comme malt là-dedans? Tu te souviens?
La base, c'est du PLL, donc on n'a pas mis de pils. On a commencé direct sur du PLL et ensuite il y a une petite pointe de biscuit. Et c'est peut-être le biscuit que tu ressens comme.
Ok.
Parce qu'au final, le biscuit, en l'utilisant, j'ai l'impression que ça donne plutôt un côté un peu vineux plutôt que vraiment ce côté biscuit, quoi.
Ouais, on est presque sur un truc un peu madérisé, presque. Enfin, au niveau des arômes. C'est des arômes qu'on retrouve presque dans le barley wine, en fait. Ce côté un peu vineux.
Et là, on est que sur 7 degrés. Hein.
Ouais, 7 degrés.
Oui, oui. Non, c'est. Du coup, parce que je sais qu'il y a des Gvec que j'aime pas du tout, mais il y a plusieurs souches de Gvec, c'est ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a que tu peux acheter, mais il y a aussi des brasseurs qui se les transmettent.
En fait, normalement, en Norvège, ce qui se passe, c'est que c'est des familles, en fait. Les levures portent le nom des familles, donc la Voss, c'est la famille Voss. Et quand les gens se marient d'une famille à une autre, les gens prenaient la levure et la mélangeaient avec l'autre levure. Et donc, il y a des levures qui portent des noms à rallonge parce qu'elles ont été mélangées plusieurs fois. Et même, il y a eu des analyses, et en fait, ils trouvent dans les couecs de ferme là-haut, ils trouvent en fait qu'il y a 5 ou 6 levures différentes. Parce que par mélange amitié ou famille, elles ont été transportées et partagées.
Ok. Ah ouais, on se retrouve avec des blends de levures, en fait, comme et on trouverait dans les
spontanées. En fait, c'est qu'en Norvège, cette culture de la bière faite à la maison, dans une ferme traditionnelle, s'est jamais arrêtée. Alors qu'il y avait sûrement des levures équivalentes en France ou en Belgique, sauf que le style a un peu disparu, les grosses brasseries ont pris le marché, et il y a des levures qui ont dû disparaître, qui devaient être tout aussi intéressantes, mais qui malheureusement on a perdu.
Ok.
Là, après, il y a juste eu un effet de mode à un moment, quelqu'un a dit « mais c'est incroyable vos levures là, pourquoi on peut pas les avoir ?» Et donc des gens en ont parlé, les grandes marques de levures se sont dit « mais c'est intéressant, oui, effectivement, et puis maintenant on peut en acheter directement ». Chez l'allemand ou autre. Mais effectivement, on peut sur eBay ou via les groupes Facebook, on peut trouver des souches de levure démentielles directement depuis la Norvège.
Ok. Ouais, on voit pas mal de brasseurs amateurs du coup, qui sont dans les îles, par exemple, et qui se retrouvent à des étés où il fait plus de 30 degrés et que tu peux pas forcément faire tourner un frigo pour stabiliser à 20 degrés, donc en fait il brasse à la Gvec, quoi.
Alors que nous en hiver
Faut faire des lagers,
hein. Ouais, c'est clair, hein. Nous on brasse toujours nos bières d'hiver en août pour qu'elles soient prêtes pour les catalogues de Noël,
des grandes firmes.
Et du coup, c'était pile poil bien parce que les 39 degrés, on n'a pas eu de mal. Ça n'a pas baissé trop vite. Par contre, on a refait une version, entre guillemets, la version du brasseur, on a appelé ça. Mais en fait, c'est une version un peu moins consensuelle, on va dire, parce qu'on avait eu une idée. Et on l'a fait en hiver. Et heureusement, ça allait jusqu'au bout, mais c'est descendu à une vitesse terrible.
Ouais. Oui, c'est un peu dur de réchauffer avec du glycol. Le fermenteur, quand même.
On peut réchauffer à l'eau chaude, mais nous, on n'a pas chez nous ça.
Ouais. Du coup, à 39 degrés, ça fermente en combien de temps?
C'était deux, trois jours.
Oh, mais même pas, je suis sûr que ta densité finale, tu l'as en 24 heures quasiment, ou presque.
Ouais, c'est ça, c'est indiqué 48, je crois, sur la documentation. Donc nous, on a pas fait les foufous. Hein. On est allé chez l'Allemand, hein, parce qu'on aime bien tester pas mal de trucs. Donc là, on avait vu ça sortir, on est allé chez eux. Ils disaient en deux jours, et nous, on a constaté qu'on maintenait les 39 deux jours, quoi. Ouais. Et après, ça commençait à chuter.
Ah oui, tu réchauffais pas, tu as juste mis ton mou à 39, tu as mis la levure et ça s'est maintenu pendant deux jours à 39 degrés. Quoi.
C'est ça, tout seul. Donc, donc on peut se dire que la vigueur de la fermentation à son paroxysme, ça a duré deux jours. Quoi. Puis ensuite, okay. Ça a commencé à chuter.
Ouais, pour aller gratter les derniers points de densité jusqu'à s'arrêter.
Okay. Et nous, au bout de nous, souvent, en fait, on a des journées où on prend les densités, c'est fixe, c'est toujours la même chose sur chaque semaine. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin de prendre la densité dans un temps qu'à part s'il y a quelque chose qui se passe mal avant 9 jours, on va dire. Ouais. Donc, nous, à 9 jours, quand on a pris la densité sur les Gvec, il nous restait 0,1 à manger. et il faut savoir que la précision de notre outil de mesure, c'est de 0,1. Donc, ça se trouve, il n'y avait plus rien, quoi.
Ouais. Mais du coup, enfin, alors je sais pas si c'est le fait on retrouve des arômes presque de miel, alors qu'il n'y en a pas. Et donc c'est sûrement la levure avec ce côté fruité et un peu fruit confit presque quoi, qui doit ramener ça parce qu'elle est pas sèche, il y a quand même une petite sucrosité qui reste et c'est plutôt agréable.
Ouais. Ça c'était une surprise parce que le test qu'on avait fait était quand même déjà assez rond.
Ouais, c'était assez gourmand et
là ça va, là. C'est bien équilibré.
Et ouais, après, j'ai l'impression qu'elle elle gagne à prendre de l'âge. Quelques mois de plus, ça lui fait du bien, quoi. C'est moins équilibré 3 semaines après la mise en bouteille, quoi. Mais bon, ça, c'est normal, c'est à peu près avec toutes les bières. C'est comme
oui, ça a besoin de s'équilibrer. Ouais. Ok, il y a d'autres levures que vous testez comme ça, un peu loufoque. Justement, fermentation basse, c'est un truc qui peut se faire. Quand on a des fermenteurs au glycol, c'est quand même plutôt facile.
Oui, et ça sera encore plus facile quand on aura l'échangeur à plaque glycolé, parce que là, on aurait beaucoup de mal d'arriver dans les tanks.
La température.
Ouais, c'est ça. Nous, en dessous de 19, on a beaucoup de mal avec l'eau à arriver en dessous de 19 dans le tank, hein, c'est compliqué. En été, on n'arrive même pas à 19, hein, on est à 24. Donc, c'est le tank qui refroidit lui-même. Mais sinon, il y a plein de choses qu'on veut tester. Nous, on est hyper ouverts. Après, grâce à Loïc aussi, on va gagner du temps de test. Et ça, c'est super, quoi. Parce que lui, Loïc, était déjà brasseur amateur avant d'arriver chez nous. Okay. Avec beaucoup d'essais à son actif et de connaissances. Et donc, ça nous booste aussi encore plus de se dire, vas-y, on va encore essayer des nouveaux trucs. Bref, c'est... Et après, en donnant des noms, qu'est-ce qu'on a... Non, on a... Là, on n'avait pas essayé vraiment des trucs foufou. On a changé, mais la levure, c'est la dernière chose sur laquelle on a travaillé. On a commencé mâle, tout blond. Après, on a commencé aussi à se rendre compte que la façon dont on brassait changeait beaucoup de choses. La fermentation, après, on y a passé du temps, mais plutôt sur les températures, sur les temps. On s'est aussi un peu occupé des dry hopping ensuite. Et puis, la levure, c'est la dernière chose. Là. C'est ce qu'on commence à explorer un peu plus maintenant. Quoi.
Après, c'est difficile, une bière qui est dans la gamme, demain, de changer la levure et d'avoir une
bière. Ouais.
Surtout si c'est une bière qui se vend bien et que les gens aiment. Ça serait dommage de changer quelque chose.
Ah, c'est sûr que toucher à la recette de la blonde ou de la triple, je suppose que c'est pas forcément évident. Par contre, changer le houblon de l'IPA d'une année à l'autre, ça peut se tenter, quoi.
Voilà. Ça, on fait tout le temps. Ah si, on a fait la Philly Sour. Philly Sour qui est...
Ah oui.
Bon, encore une fois, on est chez l'Allemand. C'est une levure qui est faite pour acidifier, mais en fermenteur. Donc, on n'a pas besoin de faire une acidification lactique ou quoi. Enfin, bref, on s'occupe de ça juste dans le fermenteur avec la levure. Et on a fait des tests secrets aux fruits. c'était relativement concluant. Il nous manque juste la cerise sur le gâteau. Et on y réfléchit.
Ouais, moi, je fais des tests aussi et on s'embête encore à faire un sour pitch sur 2 jours.
Ouais.
Mais ça va, le grain phaser, il permet de maintenir la température toute la nuit, donc c'est plutôt cool. Oui.
Après, je pense qu'un jour, on fera ça en test. Et puis, le jour où on aura une nouvelle salle à brasser... ça, c'est prévu pour, on va dire, la prochaine étape d'évolution, c'est une nouvelle salle à brasser. Là, je pense qu'on la prévoira pour pouvoir faire ça.
Ouais. Oui, parce que souvent, ce genre de choses en pro, on n'y pense pas. Et quand on a besoin de maintenir à 30 degrés un mou toute la nuit, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas équipé. Quoi.
Ouais, c'est clair.
Ou alors, tu peux nettoyer ton échangeur à plaques pour refroidir, mais en fait, du coup, il reste sale jusqu'à son ébullition et tu n'as pas moyen de le renettoyer parce que ta salle à brasser n'est pas faite pour. Je parle pour les salles à brasser en dur, hein, où il y a déjà toute la tuyauterie qui est installée. Et des fois, il y a des connexions que tu ne peux pas faire. Genre, moi, je ne peux pas faire de Whirlpool à 80 degrés, ce n'est pas possible.
Ouais.
Voilà, c'est une option à 15 000. On ne l'a pas. Donc tu fais autrement.
Nous on s'est dit qu'on la prendrait. On verra.
Donc tu fais autrement, donc tu trouves un soudeur et puis tu vas lui expliquer ton problème et puis il va te faire des raccords qui vont bien quoi. Mais c'est vrai que quand tu fais un sour pitch, quand tu veux faire une lactique, enfin une gauze ou ce genre de choses, faut être capable de maintenir toute la nuit à température.
Alors, la Fuji Sour, du coup, elle est pratique. Hein.
C'est... Ah, pour le coup, ça évite tout ça, quoi.
Alors, je pense qu'on ne peut pas avoir la même finesse, j'imagine. Hein. Moi, je ne suis pas du tout... Nous on n'a jamais fait ça en Sour Pitch ou quoi.
En fait, tu ne peux pas choisir ton pH, déjà. C'est-à-dire que quand tu fais un Sour Pitch ou n'importe, tu peux prendre... Humainement, tu peux prendre ton pH toutes les heures. Et quand tu as le pH désiré... tu passes en ébullition. Même si c'est 3 heures du matin, tu peux le faire. La Philly Sour, elle va aller à un pH, je ne sais plus, 3,8, 3,6, je ne sais plus lequel c'est. De toute façon, elle y va.
Alors, on peut faire jouer avec l'ensemencement. Si ouais. On réduit l'ensemencement, on a une acidité qui est moins forte. Okay. Et j'imagine que si on est tenace et qu'on se fait une petite graduation, on va pouvoir atteindre des pH à peu près qu'on veut. Mais effectivement, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas se dire « Ah bah tiens, j'arrête ». Non, la machine, elle est dedans, elle est finie. Quoi.
Ouais. Mais c'est pratique quand même. Ça permet de faire des sours beaucoup plus rapidement et puis avec moins de risque de contamination, quoi, surtout.
Oui, ouais. Ouais.
Parce que, la salle à brasser avec un mou à 35 degrés pendant toute une nuit, c'est royal pour les bactéries et les levures sauvages.
C'est là où c'est bien quand, par exemple, on a pensé avant à ce que la salle à brasser puisse être hermétique. Il y a des petits détails comme ça qui facilitent quand même grandement la vie. Quoi.
Ouais. Ok.
Et puis au niveau de la levure, il y a quand même les fournisseurs, ils travaillent beaucoup plus dessus aussi à proposer des choses. Donc ça donne envie de « Ah tiens, ils ont sorti ça, on aimerait bien tester ».
Ouais, il y a la… pour faire des saisons, il y a la… je ne sais plus comment elle s'appelle. Dernièrement, c'est l'Allemand encore qui a sorti ça.
Ouais, la Pharmahouse.
La Pharmahouse, ouais.
Oui, eux, ils sont très dynamiques dans...
Ça, c'est génial. Ils ont quand même sorti coup sur coup des levures qui te permettent d'éviter des contaminations et des difficultés, quoi.
Et assez stable aussi.
Ouais.
Pas des levures, elles merdent à la moitié de la fermentation parce qu'elles ne savent plus quoi faire.
On ne citera personne.
Bah, c'est des trucs qui sont adaptés aussi à notre façon de travailler, parce que c'est sûr que, par exemple, on prend une S33, on met ça dans un fermenteur et puis on pasteurise pas, ben, on a quand même de fortes chances d'avoir des soucis, quoi.
Ouais, dis pas de marque.
J'ai pas dit de marque.
Non, non, mais on est d'accord. On l'aime pas trop, cette levure-là. mais du coup, ouais, c'est des levures où quand ça fait partie de ta gamme, ben, y a du boulot, quoi, pour la changer. C'est compliqué, surtout celle-ci, quoi.
Ah, nous, on a, moi, je l'ai utilisé qu'une fois sur une IPA. Ça s'est mal passé, on s'est arrêté là. Donc, je me rappelle même plus ce que ça donnait, j'avoue. Hein, ça n'avait pas été tip-top.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a des levures. Bah, là, pour le coup, tu n'arrives pas à reproduire deux fois le même brassin. Tu ne sais pas pourquoi. Quoi, c'est...
La Après, il faut pasteuriser. Quoi.
Ouais, ça, mais si tu n'atteins pas ta densité voulue, bah, ta bière, c'est pas la même. Quoi. Elle n'a pas le même degré d'alcool. Elle est beaucoup plus sucrée. Et puis, à la refermentation, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ouais, en effet, si tu pasteurises pas...
Voilà.
Ça peut être rigolo, quoi.
Ouais. Il y a des clients qui aiment quand même. Oh non, mais c'est rigolo, monsieur, ça fait des pétards.
C'est ça. Du coup, ouais, vous êtes. J'ai vu que sur les canettes, vous êtes bio. Ça veut dire que du coup, le rucher aussi.
C'est ça, les gugus aussi sont bio.
Tout le monde, ouais.
tout est bio. Ouais, bah, on vient ça un peu à cause de nos études, de notre philosophie aussi des choses. C'est pas qu'on veut une bière bio, c'est tout ce qu'il y a avant de faire cette bière-là, en fait. C'est la production du malt, la production du houblon. C'est très difficile d'ailleurs en ce moment d'avoir du houblon bio parce que. Bah, je sais qu'en Alsace, c'est qu'au niveau d'Auvernais qui font ça parce que c'est un peu une enclave, donc il y a peu de risques de contamination. Voilà, nous, c'est plutôt sur cette sémantique de contamination qu'on, en amont de nous qu'on veut valoriser.
Ouais.
Que mettre le logo bio sur notre bière, ça, c'est d'ailleurs souvent quand on discute avec les gens, qu'on fait du commercial, qu'on la présente, notre bière, on oublie. À chaque fois, les gens disent, mais vous dites pas qu'elle est bio. Mais parce qu'en fait, nous, c'est un peu une obligation. Donc,
oui, ouais. C'est, pour vous, c'est le par défaut. Quoi. C'est...
Voilà, et quand des fois, ça apparaît pas sur la bouteille, parce qu'il y a un petit ingrédient, je sais pas, on a fait une au safran. Bah, le safranier, il est en cours de conversion bio. D'ailleurs, il y a des gens comme ça qu'on a convertis. Parce qu'on a fait une bière au café... Elle n'était pas bio. Et puis, le mec, il s'est mis à faire du bio. Donc maintenant, on a une bière au café bio. Le safran, c'est
très bon.
Pareil. Ouais. Voilà, donc les gens, petit à petit, en fait, se rapprochent de cette certification. Et c'est plutôt bien.
Safran local, du coup, on est d'accord.
Oui.
Ouais, oui.
Non, mais parce que moi, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Ma mère qui me dit, ah, mais il y a du safran en Meuse. Je dis, comment ça? Il me dit, bah oui, on fait du safran en Lorraine depuis longtemps. Je fais, mais le safran, c'est exotique, enfin, c'est loin. Non, non, il y en a là. Ah, ok. Et du coup, vous, c'est quoi, il y en a dans les Vosges?
Ouais, c'est le. On va le citer, autrement, il va nous taper dessus. C'est le safran des Pailloux, ça y est, c'est dit. Ouais, et puis alors, c'est marrant, une petite anecdote. Une fois, je vais aller récupérer le safran sur un marché en plein milieu d'Épinal. Et le safran, ça coûte super cher. Il m'avait donné un bocal et puis il m'a dit le prix. Je fais, oh putain, si je me fais braquer, je suis mort, quoi. Parce que ça vaut une fortune, c'est 12 000 euros le kilo ou quelque chose.
Bah oui, mais quand on n'achète que quelques grammes, finalement, c'est pas si cher.
Parce mais là, que on avait peut-être 200 grammes, un truc comme ça.
Bah, on avait pour, je crois qu'il y en avait pour 1000 balles. Typo, là.
Tu vois, prends ça. Oui, bah, oh.
Ah, du coup, des ingrédients comme ça, des ingrédients comme ça, t'as pas intérêt de te louper quand tu l'utilises parce que si tu chauffes trop fort, tu le détruis. Si t'en mets trop, t'as une bière à la paella et si t'en mets pas assez, ça sent pas, quoi.
C'est ça.
Si tu trébuches et qu'il tombe par terre, c'est dommage.
Ah oui, ah oui non mais.
Après, on a fait des tests aussi pour ça, hein, évidemment. Hein.
Oui, oui.
Déjà, on a travaillé vachement en amont avec le safranier. Ensuite, on a aussi échangé avec des collègues qui avaient fait leurs propres expériences. Et une fois qu'on a eu tout ça, on a calé, je crois, deux tests qui étaient des questions de quantité de...
Jurée, peut-être, à quel moment ?
Je crois que c'était des quantités, combien on mettait de grammes par litre. Et puis ensuite, une fois qu'on a eu les tests, bon, on a eu de la chance, comme on avait fait pas mal de biblio, entre guillemets, avant, on est assez vite tombé sur le
oui, bon oui, grammage. C'est vrai que quand on sait où chercher, on trouve assez rapidement sur des valeurs, on a des minimums et des maximums de grammes par litre, et du coup, on voit à peu près où il faut viser. C'est vrai que on est, enfin, dans le monde brassicole, on a de la chance, les informations se partagent.
Ouais,
et ça, c'est assez, cool, assez bien en plus. Donc.
Oui, puis il faut le dire, nous on a beaucoup bénéficié de ça aussi. Hein. Je ne sais pas si on l'avait vraiment dit, mais nous quand on a commencé à brasser en amateur, c'était en 2016. Donc au final, c'était très tard comparativement au moment où on s'est installé, qui était juste un an après en fait, hein, ouais. En 2017. Donc bon, c'est sûr qu'au milieu de cette année 2016, on a eu une grosse formation à l'IFBM qui nous a quand même musclé sévèrement, au moins sur la théorie. Et puis après, ben, après forcément, quand on a commencé, nos connaissances étaient limitées. On a énormément appris déjà la première année sur la 100 litres, parce qu'on a pu faire toutes nos erreurs, parce que ce n'était pas grave, parce que c'était que 100 litres. Et puis aussi, ensuite, nous, on aime bien, comme on dit, faire la tournée des popotes, toujours. Donc, on va voir à droite, à gauche, on va visiter les brasseries des copains qui sont proches. Et donc, tout ça, ça nous a fait énormément évoluer. Donc, il faut saluer cet échange-là, sans filtre, sans dire, ah bah oui, mais toi, t'es un concurrent, machin. C'est vraiment super, quoi. On a gagné beaucoup de choses comme ça.
C'est vrai que j'ai rarement entendu qu'un autre brasseur nous dise on est concurrent, je te parle pas, quoi. Je crois que j'ai jamais entendu en fait.
Ouais, c'est très rare. Et puis même des gens qui sont excellents. Nous on a connu Piggy Brewing Company, quand on commençait. Nous l'IPA qu'on fait aujourd'hui. Il y a eu plein d'informations, c'est vraiment grâce à eux, quoi. On s'est beaucoup amélioré sur plein de choses, vraiment des points de détail, mais les points de détail qui font qu'un dry hopping, c'est un dry hopping et pas juste une vieille infusion au goût de chaussette, quoi.
Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est vraiment, c'est pour ça que j'aime faire ce que je fais. Hein, de toute façon, hein, quand tu rencontres d'autres brasseurs, c'est toujours super intéressant. On ressort toujours grandi de n'importe quelle discussion avec un collègue, en fait. De toute façon.
Ouais. Et t'as pas de livre professionnel, quoi. T'as pas de, tu peux.
Non.
Dans une bibliothèque, y a pas. Brasser en pro, voici les recettes, comment on fait, ça n'existe pas, quoi. C'est que de l'oral, quoi.
C'est ça. Bah, y a des bouquins, mais en fait, tout ce qu'on apprend à l'oral, c'est pas dedans. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein.
C'est ça.
Hein. C'est dans les bouquins, c'est autres, très bien. C'est très bien pour débuter, mais en fait, y a plein de trucs, tu l'as pas dans les bouquins, quoi.
Ouais, puis après, il y a des trucs, ça peut paraître, quand on ne sait pas vraiment ce qu'est le métier de brasseur, ça peut paraître loin, mais tout ce qui est la construction d'un tank, la sanitation, réfléchir des tanks pour qu'ils se nettoient, puisque au final, nous, on ne fait que ça hein, dans notre journée, on nettoie, on passe 50% du temps à nettoyer des trucs. Et en fait, ça aussi, c'est hyper compliqué, et les informations spécifiques à la brasserie, j'entends, sont pas forcés, enfin il faut aller les chercher, ça ne coule pas de source, quoi.
C'est pas dans les bouquins, ça.
Non. Et donc tous les protocoles, forcément, c'est des choses c'est des tests, des gens qui ont fait des erreurs, qui disent ah bah attention parce que j'avais fait ça, tu vois, c'était pas assez ou c'était trop ou c'était ceci.
Ouais.
Au final, ouais, après, aujourd'hui,
tu discutes avec les fournisseurs, puis avec les fabricants, et puis et pareil, avant de choisir ta salle à brasser, bah, tu discutes avec 5, 6, 10 fabricants. Mmh. Et à chaque fois que tu discutes avec quelqu'un, tu t'apprends des nouvelles choses. Tu dis ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Et puis ta liste, elle se rallonge. Et puis en fait, tu dégrossis comme ça. Mais c'est trop bien.
Ah oui, puis après, faut aller, nous, on va toujours voir les machines fonctionner chez les copains qui les ont. On prend les retours négatifs, positifs, les critiques. Bah, tu ferais quoi pour l'améliorer? Et puis nous, bah, forcément, grâce à ça, c'est vrai qu'on s'en ressort encore avec un cahier des charges qui s'allonge.
Bah ouais. C'est. Alors, bah, du coup, rien à voir, mais. Le fait que ce soit refermenté au miel, est-ce que c'est est-ce qu'il y a des gens que ça touche particulièrement, enfin des consommateurs, c'est parce que tout à l'heure on disait il y a des gens qui se disent que peut-être c'est trop sucré ou parce qu'il y a un a priori, mais est-ce qu'à l'inverse il y a des gens qui sont genre fans de bière au miel et qui du coup viennent chercher ça ou c'est anecdotique?
J'ai pas eu de demande. Non, on n'a pas eu de demande spécifique sur je veux une bière sucrée au miel.
Ok.
Pas eu de demande là-dessus. C'est plutôt l'inverse. C'est au miel et ça va être trop sucré. Et c'est plutôt dans le sens-là, dans tous les cas, quoi.
Après, on a eu des fois des associations qui sont sur l'apiculture qui demandaient pour leur buvette une bière au miel absolument, parce que ruche, miel, etc. Mais sinon, je crois pas qu'il y ait vraiment des gens qui ont fait la demande. Après, la démarche, elle peut attirer pas mal, c'est-à-dire faire en sorte de faire avec les sucres qu'on a sous la main, c'est-à-dire le miel, pas mettre de sucre de betterave raffiné, fabriquer tout ça en bio, dans un esprit, ça attire. Donc le miel en fait partie, mais c'est pas ça que les gens vont rechercher. Non, on nous a jamais dit ah bah tiens, je suis fanat de bière au miel et j'en cherche dans toute la France. Non.
Parce qu'il y a des grandes marques qui en font, et du coup il y en a qui ne jurent que par ça, mais c'est bon, voilà, c'était pour savoir. Du coup, on a Olivier du Podcapsuleur dans le chat.
Ah oui.
Celui qui est sûrement... apéro, Olivier. Hein.
Salut, Olivier.
Sûrement celui qui est parti avec la bouteille. On recherche la bouteille de spiritueux de l'opercule. Moi, je ne l'ai pas, moi.
On sait que c'est toi.
pas d'accusation.
Eh ben écoutez, je vais ouvrir la dernière parce que c'est la dernière qui me reste, c'est la triple. Ah voilà, elle est à la maison là. On le savait. Je viendrai la finir, je viendrai brasser et on la finira.
Alors ça, c'est notre erreur
de jeunesse.
De jeunesse, la triple.
Bref, c'est pas grave.
La petite histoire, c'est quand on a fait notre premier brassin dans notre Polsinelli 100 litres, là, on ne connaissait pas du tout les rendements, et on est tombé sur une bière à 8 degrés. On a très bien vendu ça, tellement que en fait, les gens, et dont il y avait un monsieur qu'on ne voit plus, je crois plus, et qui venait à chaque fois maintenant et qui disait « moi, je veux la bière à 8 degrés ». Et en fait, nous, c'était notre blonde qu'on voulait faire. On a dit, on l'a pu, c'était une erreur. On a notre blonde à 5,5. Ah non, je veux la bière à 8 degrés. Je veux la bière à 8 degrés. Et nous, pendant 6 mois.
Il y en avait plein. À chaque fois, il venait, non, mais c'est la 8. Non, mais monsieur, on a réussi à la faire à 5,6 maintenant. Ça y est.
On est trop contents.
Notre recette est calée. Non, mais je m'en fous, je veux celle à 8. D'accord.
Voilà, du coup, on a fait celle à 8. Et. Là, par contre, on n'a jamais eu aucune critique négative. C'est la seule bière.
À part nos femmes qui disaient que ça tapait un peu. Parce qu'elles sont toutes les deux amatrices de bières plutôt puissantes, plutôt triples. Et au début, on avait aussi, dans nos calculs d'alcool, Il y avait quelques subtilités qu'on n'avait pas bien mises. Donc, je pense qu'on avait des trucs qui frôlaient plus les 9 et des bananes que les 8. Donc, c'est vrai que quand on la débouchait, il fallait être assis, quoi, parce que quand on se le relevait, ça faisait un peu mal.
Allez, hop.
Ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas d'ester dans tous les sens. Et ça, c'est plutôt agréable. Ouais. Parce que les triples du Nord, par exemple, moi, je peux pas. Et même celles qu'on brasse, nous, je trouve qu'il y a trop d'ester. Quoi. Et toutes les bières du Nord, du coup, du style triple, il y a trop d'ester. Et des fois, ça sent la banane. J'aime beaucoup les arômes de banane, mais dans la blanche, quoi. Un effet Weizen à la banane, c'est bon, mais une triple, je suis moins fan. Et là, il n'y a pas. Ça sent pas l'alcool, j'ai pas l'impression de respirer un bidon d'éthanol, tu vois.
C'est dû à deux choses, je pense. C'est dû, premièrement, à la levure qu'on utilise, qui n'est pas une levure comme on pourrait imaginer, typée ABI ou quoi que ce soit. Qui est une levure qui reste plutôt neutre, même si elle développe quand même des arômes quand elle commence à chauffer un peu. Et la deuxième chose, je pense que c'est ça, c'est que nos températures de fermentation pour celle-ci ne sont pas trop hautes non plus. Ouais. Si on était allé plus haut, je pense qu'on enfin, même si on le faisait la même en allant plus haut, on aurait plus d'ester.
Bah du coup, c'est super agréable en fait. Ça sent pas l'alcool, quoi. Bah, déjà, je suppose qu'il n'y a pas de sucre pour rattraper la densité déjà.
Non.
Ça joue beaucoup.
Mal.
Ça joue beaucoup.
L'après-midi, le dédréchage, il est loin.
C'est Loïc qui l'a fait. Là, c'était.
C'était long. C'était long,
compliqué.
Ouais. Il l'a fait en plusieurs fois, du coup.
Bah oui, t'es obligé de faire une petite pause à un moment.
Il y a plus la fenêtre et il y a des drèches au-dessus de la fenêtre. Quoi.
Donc du coup, pour la petite histoire, justement, on a calibré cette brasserie-là que finalement, on a dessinée avec Damien, puis qu'on a demandé à faire. C'est assez simple. Ça, finalement, ce ne sont que des gamelles, un peu comme on avait avant en Polsinelli, sauf ouais. Que c'est plus gros et puis que ça a été juste réfléchi sur... quelques détails pour que ce soit plus pratique. Et donc, la cuve d'empattage, elle est calibrée pour faire des bières à 8 degrés sans avoir à rien rajouter. Quoi. Les surfaces ne sont pas optimales, mais sont déjà assez élevées, la surface de filtration. Et puis, la contenance est très grosse. Donc, nous, on fait des brassins de 1010 litres, on va dire, en fermenteur. Et elle fait 1700 litres, la cuve dans le pâtage. Donc on peut y aller, on peut la charger. Je pense qu'il nous reste de la place. Hein.
Ah bah oui, on pourrait faire un peu plus. Hein.
Je pense qu'on peut faire encore oui. 1 ou 2 degrés de plus sans souci.
Il reste de la place.
Bah, c'est ça, le truc, c'est qu'on oublie, mais il y a souvent les salles à brasser, même le matos qu'on peut avoir à la maison ou en pro, il est... Il y a un moment donné, en fait, on est au taquet parce que si tu mets si tu mets 2 litres 8 jusqu'à 3 litres 5 de flotte par kilo de malt, il y a un moment donné, la cuve, elle est pleine. Quoi.
Ah ben, si tu mets 7 kilos et demi, 8 kilos dans un grain phaser, ça ne marche plus. Hein.
Non, c'est un peu compliqué, je confirme.
Le rendement partout, le rendement, il s'effondre.
Si, il faut touiller, quoi.
Ouais, même. Hein.
Moi, quand je fais des essais, je touille.
Touille à la main.
J'ai un fourquet et puis je touille dans le grain phaser, quoi.
Ouais, là, on fait trois fois la quantité d'eau. Trois fois la quantité de malt en eau. Donc, ouais. Ce qui est pas mal. Hein, on arrive à des bons rendements et la cuve est pas pleine, quoi.
Ouais.
On va faire 9 pour une bière de l'hiver prochain. Je pense que ça devrait passer. Après, ça dépend aussi de la densité finale, hein, toujours. Plus on va laisser, plus on va avoir du mal. Donc là, dans la triple, on doit être quelque chose comme 5 plateaux en densité finale, ce qui est quand même relativement élevé.
Ouais, mais pour une bière de ce style, ça va. Hein.
Oui, ça reste dans la norme. Et nous, on, donc, on a genre 18,5 plateaux une fois que ça sort début, début de fermentation.
Ok. Mais en effet, non, mais ouais, bah, elle est bien. Franchement, il y a. Mais enfin, il n'y a pas de secret, hein, le fait de faire du pur malt déjà. Pur malt et puis densité, enfin température de fermentation pas trop élevée, ça fait des bières qui sont plutôt plutôt clean. Hein, y a pas de, ça part pas dans tous les sens au niveau des esters. Quoi.
Non, c'est clair. Bon après c'est pareil sur les houblons, on est resté sur quelque chose de relativement traditionnel aussi, donc ça vient un peu supporter ce côté tradition belge quoi.
Ouais.
Là, nous, on a vraiment une culture belge portée sur le malt. Voilà, c'est plutôt notre style. On fait une IPA parce que maintenant, il faut en faire une. Et c'est vrai que c'est très rafraîchissant. Puis, voilà, il y a vraiment le côté houblonné. Mais ça ne sera pas chez nous. Ça ne sera pas notre marque IPA, NEIPA.
Tout ouais, ça, ouais. Ça, bah, l'important, c'est de faire les bières qu'on aime faire quand même. Hein. Faut,
ouais,
et puis qu'on aime boire surtout.
Bah après, on reproduit aussi l'IPA parce qu'on a mis le doigt dedans, je pense. Alors, pas tant en termes de comme consommateur, mais en termes de brasserie. Donc, quand on a commencé à mettre le doigt dedans, dans la technique du dry hopping, tout ça, puis même maintenant, dans la technique du houblonnage tardif, tout ça, on est en train de voir avec Damien et Loïc beaucoup ça aussi. Ben, en fait, on a découvert un monde extraordinaire, quoi. C'était... Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est technique, c'est-à-dire réussir à techniquement faire en grande quantité des bières qui ont tel goût. Ça, je trouve ça passionnant, de faire en sorte que ça ne soit pas trop casse-bonbon, toutes les manipulations, parce qu'on peut faire un truc chiadé, mais si on a mis 3 mois, 24 heures sur 24 à la brasserie pour le sortir, c'est
pas terrible, ouais, c'est pas rentable. Voilà.
Et c'est vrai que tout ce qui est touché au houblon, ben, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on a commencé à aimer, quoi. C'était intéressant, c'est pointu, c'est en cours de... La connaissance est en cours d'acquisition, on va dire. Donc, ouais. C'est hyper motivant, quoi.
Et puis, il y a encore beaucoup de recherche qui est faite là-dessus. C'est récent, en fait. Le fait de faire du dry hopping, c'est sûrement un peu plus vieux que nos histoires perso autour de la bière, mais les recherches scientifiques sont actives que depuis peu et on commence seulement à avoir des résultats sur la biotransformation, sur les températures, les choix de houblon, ce que ça peut, quels impacts ont les levures sur le houblon qu'on rajoute. C'est ultra récent et du coup, y a plein de choses à tester, quoi.
Ouais, puis c'est vrai qu'avant il se faisait des dry hopping, mais pour des raisons bactériennes, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. Il mettait du houblon parce que c'était antiseptique, ça se gardait mieux comme ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est super intéressant de créer des bières dans cette optique parce que ça donne, comme c'est léger et souvent c'est des houblons plutôt traditionnels, ça donne des arômes. Qu'on n'a pas trop l'habitude avec maintenant les gros houblons américains qui sont super sympas, mais qui ne sont pas du tout pareils. Et c'est seulement maintenant, effectivement, qu'on le met dans un but aromatique. Et on avait fait une formation, justement, juste avant le salon du brasseur, il y a 3-4 ans, je ne sais plus. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses où c'était marqué, ben, en gros, on ne sait pas, quoi. C'est en cours d'acquisition, les infos, quoi.
C'est ça. Ouais, il y a eu. C'était quand. Ouais, bah, l'année dernière, on a eu un. Avec l'IFBM, je crois, ou l'allemand, il venait seulement de parler de la biotransformation. Parce qu'il venait seulement d'avoir des résultats, quoi.
L'allemand avait fait une conférence là-dessus, il me semble, l'année dernière.
Ouais. C'est pareil, c'est Yakima qui est arrivé, il nous a dit. Ah non, mais la biotransformation, si vous voulez la faire, c'est tel degré et tout. Et tu fais, ah bon? Et du coup, tu essayes, et tu fais, ah ouais. Ok. Ils ont cherché, ils ont trouvé, et ça marche.
Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est diffusé, tu vois, l'information. Elle est...
Ah ouais, mais le mec, il te le dit, il a rien à cacher, il s'en fout, quoi. C'est... Lui, il est content. Son houblon, il va donner tout son profil aromatique. Il va vendre son produit mieux qu'avant. Parce que ça marche, en fait. Et t'essayes, ça marche.
Ah, Maxime, il passe beaucoup de temps avec les fournisseurs à acquérir leur savoir, sur que ce soit sur la levure, sur le houblon. Ouais. Max, il aime bien appeler vraiment les fournisseurs en disant « Bon, alors c'est quoi? Si on fait comme ci, comme ça, c'est quoi le mieux ?» Il pose plein de petites questions pour que…
Ah, il faut, hein, il faut.
Le top derrière, quoi.
Nous, il nous a fait presque abandonner le Hopgun, quoi. Donc, tu vois, c'est…
Non, mais... Bon, votre truc à 15 000 euros, là, vous pouvez le foutre à la couvette.
Bah, presque. Hein. Bon, par contre, la sortie du fermenteur, elle est un peu petite pour sortir les dizaines de kilos de houblon, mais...
Ouais, nous, on a direct la première salve de fermenteur qu'on a acheté, on ne savait pas. La seconde, on a eu direct des dînes diamètre 50, donc c'est 10 plus gros que c'est, donc pour évacuer. Et là, on se prépare des 65 sur les nouveaux temps.
Bah ouais, obligé. Hein.
Parce qu'après, sinon, le problème, c'est que ça reste dedans. Quoi, hein. C'est un peu coincé. Hein.
C'est
ça. Au tout début, en plus, on ne savait pas du tout. Et en fait, tu ouvrais la vanne et rien ne sortait. C'était fini.
Ah non, mais il n'y a rien. Tout à l'heure, j'ai vidé, je pense, les 10 kilos de houblon, je les ai vidés sans tuyau.
Ah ouais?
J'ai juste ouvert la vanne et j'ai attendu que ça sorte tout doucement.
Par contre, il y a un moment où ça sort, il faut fermer.
J'ai repeint mon pantalon, mais, mais j'ai fermé.
Mais à chaque fois, c'est comme ça.
Mais en vrai, j'ai pas perdu grand-chose. Hein. Mais ça sortait tellement lentement que pas besoin de tuyau.
Après, il y a des petits trucs aussi à faire. C'est sûr que plus tu ouvres tôt, plus tu vas économiser du temps. Quoi. Après, nous, je sais bien sûr. Au bout de 4 jours, on ouvre direct, quoi qu'il se passe, même si ce n'est pas fini, je veux dire, même si on a encore un petit peu une reprise de fermentation, etc., on ouvre direct. Et depuis que je fais ça, on a beaucoup, beaucoup moins de mal. Alors nous, c'est des 500 et 1000, hein, donc c'est des petits tanks. C'est plus facile que si tu es dans un 20 hecto, je pense que tu commences à avoir un sacré paquet de houblon en fond. Mais depuis qu'on fait ça, on galère quand même vachement moins qu'avant. Quoi.
Ouais.
Et puis bah, on pousse au CO2 aussi pour faire la recirculation, nous.
Ouais, donc, t'as pas le choix. Hein.
Voilà, on pousse par le bas. Alors avant, on faisait recirculation à la pompe parce qu'on n'avait pas encore l'info et puis qu'on n'avait pas encore le matos. Et pousser au CO2, je trouve que ça libère pas mal la vanne aussi. Ça permet qu'il y ait un entassement de grains presque secs qui sont tombés du haut.
Tu ressors des pelés, hein.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais.
On a cramé une pompe d'ailleurs comme ça.
Ah ouais, on a cramé un rotor. La première recirculation qu'on a faite. Hein,
ouais,
on
n'est pas allé dans le bon sens. En fait.
Ouais, ouais. On a
tourné dans le vide.
Et puis on s'en est pas aperçu, il faisait pas un bruit trop bizarre. Et à un moment, on éclabousse à côté de la pompe. Et là, la pompe me fait pshhh. Ah, t'as l'air chaud, non? Bizarre. Et ouais, le rotor, il était cramé, quoi.
Ouais.
On aspirait par le fond, donc forcément,
au bout de. Si c'est bouché, t'aspires à rien, quoi.
Ouais, c'est ça. Au bout d'une seconde, c'était.
Ouais.
C'était fini, quoi.
Ouais, oui. Il faut aspirer dans l'autre sens.
C'est ça.
Et ça, c'est le mec qui te vend la pompe, il te le dit pas. Hein. Ou juste qui te vend le houblon, il te le dit pas non plus. Hein.
Non, par contre, l'agitation au CO2, c'est vraiment super.
Bah c'est... oui, tu fais rentrer zéro oxygène.
Ouais.
Ça remue un peu.
Le nettoyage prend à peine 10 minutes parce qu'il y a juste un raccord à nettoyer comme il faut. Et si tu veux vraiment un petit coup de péra, mais sinon, c'est super, quoi.
Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres trucs du coup à ajouter sur la brasserie. C'est là les prochains projets, c'est le déménagement. Même si c'est pas loin, ça va être le bordel. C'est dans combien de temps?
Juin, juillet, croisons les doigts pour ça.
Ouais.
Puis alors, on aura un double site, en fait. Du coup, il faudra quand même vider les tanks qui sont ici. Donc, on embouteillera ici, mais on produira de l'autre côté. Donc, ouais, on va s'amuser, quoi. C'est bien. Je trouve que ça fait long. Ça commence à durer, l'amusement, là. Il va falloir aller partir en vacances, mais... Mais avant, on fera une inauguration, une chouille, parce que là, ça sera plat, ça sera nickel. Enfin, sérieusement, on va sur un beau site et on pourra accueillir du public sans problème, chose qu'on ne pouvait pas faire là. Donc là-bas, on va pouvoir le faire. Donc, ça va dynamiser un petit peu là où on est. Ça va aussi nous motiver. On aimerait bien multiplier les tests et puis du coup, les faire goûter à tout le monde.
Ouais.
Donc il y a plein de projets en tête. Voilà, là on attend avec impatience le site.
Parce que c'était pas prévu comme ça au début. Hein. Ce qu'on va faire là, c'est arrivé il y a quelques semaines, quoi. Et avant, c'était autre chose qui était prévu. Et il y avait déjà eu énormément de boulot qui avait été fait pour l'autre organisation. Damien, il avait passé, parce qu'on ne se rend pas compte, mais des heures et des heures pour des détails, le pourcentage des pentes, qu'est-ce que peut supporter une dalle.
Ouais. Actuellement, sur le site où on est, notre entrepôt est coupé en deux parce que l'autre partie est en travaux, en fait. Travaux d'ailleurs qu'on commençait mais qui ne se termineront jamais sous notre ère. Et par contre, la problématique, c'était qu'on était sur un étage et on devait faire une dalle super béton avec une résine qui ne pète pas sur un étage. Et ça, les dallistes et les gars de la résine, c'était une horreur pour eux parce qu'ils avaient peur pour leur décennale. Nous, on avait peur parce que si ça pétait de partout, c'était la fin.
Ouais.
Voilà, on garde la moitié de l'entrepôt détruit et puis on s'en va. des fois, c'est comme ça.
Bon, écoute.
On te convoque et puis on dit que tu déménages. Alors, oui,
Si vous pouvez vous arranger pour que l'inauguration soit en même temps que celle de la Golaï, ça m'arrangerait. Comme ça, je viens
ça fera une pierre deux coups. À la Golaï, ils sont un petit peu plus avancés que nous. On a pas mal échangé d'ailleurs avec eux parce que. On en était au même. On se posait certaines questions qui étaient identiques. Donc, on a échangé avec Reynald sur deux, trois trucs. Et, apparemment, ça va être beau. J'ai vu quelques photos. Ça va être sympa, leur truc.
Ouais, il y a moyen.
Et donc, du coup, nous, dans le nouvel endroit, il y aura. On va pouvoir avoir un bar quasiment tout de suite. C'est un des projets qu'on avait, mais on le voyait pas tout de suite encore parce qu'il y avait des investissements importants à faire pour aménager. Et là, l'opportunité qu'on a eue permet de voir ça plus proche, quoi.
Ok. Bah, c'est cool. Ça permet d'accueillir le public comme il se doit.
C'est ça.
C'est ça.
Bon, ouais, les gars, merci beaucoup.
Merci à toi.
Je pense qu'on a tout dit et puis il y avait du monde dans le chat, mais les gens ont écouté, ils ont été plutôt calmes. Mais,
ils ont bu nos paroles.
Ils sont là et du coup, ça fait toujours plaisir.
Vas-y, pour l'inauguration, qu'on boive des coups, ça va être bien.
Bah ouais, il va falloir qu'on fasse ça. Du coup, merci à tous les trois d'être venus. Bon courage du coup pour le déménagement et puis et pour la suite. C'est toujours positif quand on doit grossir.
Oui.
C'est tout ce qu'on souhaite, surtout quand on peut le faire. Merci à vous trois, merci à tous dans le chat d'être là. Restez encore un peu hein, l'opercule après dès que j'ai coupé vous. Partez pas tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi depuis le début, le live sera du coup en replay disponible sur YouTube vendredi à 18h, comme d'habitude. Voilà. Et puis il sera partagé sur Facebook sûrement. Bonne soirée.
Ouais. On était vraiment super contents d'être là. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait souvent, mais c'est agréable de pouvoir partager avec différentes personnes, puis boire des bières en direct. Comme ça, c'est assez sympa.
Eh ben, merci. Merci à vous surtout. C'est grâce à vous qu'on peut faire ça. Bah bonne soirée à tous et puis je vous dis à une prochaine.
Salut. Salut. Au revoir à tous.
Ciao tout le monde.
Salut.